ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Au nom de Dieu, le très clément, le très miséricordieux, et que la paix de Dieu soit sur notre dernier messager, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous salue par le salut de l'islam et des gens du paradis. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'excuse, je vais vous ramener à une lecture plutôt classique de l'islam après cette présentation qui était faite au niveau d'une lecture plutôt sociologique. Mais j'aimerais bien mettre les points sur les i avant d'intervenir. C'est que quand on dit interprétation, c'est un gros mot, dans le sens que lorsqu'on lit les textes, il y a des règles qui permettent à ce qu'on appelle un érudit, un spécialiste, ou un spécialiste, d'aborder les textes de la loi, c'est-à-dire fondamentalement le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette lecture éventuelle ne veut pas dire forcément interprétation, qui se dit en arabe ta'wil. On confond le ta'wil avec la notion de l'ijtihad, l'effort de réflexion de l'érudit. Et pour nous, malheureusement, toujours, l'ijtihad est synonyme d'interprétation. Et ceci est très grave dans le sens que l'ijtihad, comme j'ai dit, ce terme général veut dire fournir un effort. Ou abathlul johdi, on dit en arabe. Cet effort consiste à quoi? Consiste à comprendre le texte. Ça, c'est une forme d'ijtihad. À mettre en application le texte. Tanzil al-nas. Ça, c'est une forme d'ijtihad. Mais aussi, l'ijtihad veut dire choisir entre deux ou trois explications supposées que permet le texte. C'est ce qu'on appelle l'interprétation ta'wil. Mais aussi l'ijtihad suppose aussi le fait de faire un effort de déduction de nouvelles règles pour des questions nouvelles au sujet desquelles nous n'avons pas de texte explicite ou de règles explicites. Ça s'appelle istinbat. Mais aussi l'ijtihad veut dire faire un effort de réflexion analogique. C'est ce qu'on appelle qiyas, et ainsi de suite. Je ne vais pas faire une conférence théorique et académique ici sur ce qu'est l'ijtihad, mais simplement c'est pour dire, attention, qu'on ne commence pas à utiliser des termes généraux qui peuvent nous induire dans l'erreur lorsqu'on est en face des textes de la loi, ce qui suppose que nous n'avons plus d'immuabilité dans nos textes, donc nous n'avons plus de repères, nous n'avons plus de référents. Alors, la question qui se pose, que veut dire « je suis musulman, croyant dans un texte divin émanant de la part du Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala ?» et dont le transmetteur était le Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, l'infaillible, et qui, à travers son modèle, nous a donné une explication globale et parfois détaillée des textes de la loi. Donc ça, c'est une remarque, mais j'aimerais bien un jour, honnêtement, que nos frères pensent vraiment à un colloque portant sur ce sujet, parce qu'on entend beaucoup ce débat actuellement sur la scène, c'est-à-dire l'historicité, la contextualisation des textes, etc. Et c'est très dangereux si nous, on n'a pas de repère et une explication claire face à cette question. C'est pour ça que j'ai dit, moi je vais vous ramener un petit peu à une lecture classique, c'est un peu caricatural de ma part, parce que lorsque je citerai des textes de la loi, ces textes ne sont pas supposés être interprétés que s'il y a, comme j'ai dit, possibilité d'interprétation, et cette interprétation, elle a un cadre légal. Et c'est une largesse en vérité qui est offerte par la langue arabe, qui est la langue du texte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatihi. Allah subhanahu wa ta'ala sait où il va envoyer ses messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé dans sa science éternelle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que la langue arabe soit la langue du dernier texte révélé. Et Dieu le Très-Puissant savait que cette langue arabe offre une multitude de significations dans certains aspects, et donc cette diversité est tout à fait voulue par le législateur. Ça, c'est un cadre un petit peu qui est en rapport avec ma qualification primaire, puisque je suis avant tout licencié en droit musulman et en méthodologie du droit au usul fiqh. Le doctorat, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance à citer dans ce lieu. Donc ça, c'est une remarque première qui me semblait être très importante. Sinon, je vais être devant vous comme un cheikh dépassé, qui va vous raconter des histoires qui ne tiennent pas debout et à lesquelles vous ne devez pas vous en tenir compte quand on cite des textes de la loi. Avant d'aborder cette question des fiançailles, j'aimerais bien rappeler l'importance du mariage, puisque en vérité, on ne peut parler de famille musulmane que si cette famille est issue d'un lien légal qui s'appelle Az-Zawaj. Et ce terme, on a deux termes pour désigner le mariage en islam, soit le terme Zawaj, soit le terme Nikah. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de ce lien matrimonial, de ce mariage, il annonce la couleur par un verset qui est très important, qui plaît à tout le monde de le citer. Qawlu ta'ala dans la sourate Ar-Rum, les Byzantins, le verset 31. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Parmi les signes qui permettent aux êtres humains de croire avec conviction à l'existence du Créateur, Dieu a cité beaucoup de ces signes avant ce verset, puis il a dit, et parmi les signes, le couple. Et le couple, en vérité, est une règle universelle. Elle ne concerne pas uniquement la cellule humaine ou le couple humain, puisque Dieu subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il a créé de toutes choses une paire, un couple. De ce que fait sortir la terre et de vous-même, de ce que vous ne savez point, a dit subhanahu wa ta'ala dans surat Yassine, la surat 36. Donc la notion de couple est une notion, est une loi, si vous voulez, universelle et non pas quelque chose de nouveau. Et donc lorsque l'islam rappelle la notion du couple, c'est pour rappeler les hommes et les femmes en vérité vers quelque chose qui fait partie de l'univers en lui-même et de sa composante et comment est-ce qu'elle a été conçue. Même lorsqu'on a un mâle dans une cellule, quelque part si vous voulez parmi des créatures, on trouve que le mâle contient en lui-même la notion du couple puisqu'il doit agir comme positif et négatif. Toujours la notion du couple, elle est primaire, elle est fondamentale. Donc, lorsqu'on dit zawaj, il s'agit de iqtiran, on dit en arabe, c'est-à-dire il va avoir un lien. Ça naqlinu hadha bihadha pour en faire un lien. Az-zawaj huwa al-iqtiran. Iqtarana, c'est-à-dire faire partie, ou si vous voulez, d'une autre entité pour former, ne former qu'une seule entité. Mais aussi, lorsque je vais vers kalimat al-nikah, j'ai dit puisque c'est par ce terme qu'on parle, on désigne le mariage, on dit dans la langue arabe, tanakahat al-ashjar. Ça ne parle pas que du couple humain, mais on va toujours vers la langue arabe. Lorsqu'on dit tanakahat al-ashjar, c'est-à-dire que les arbres se sont entrelacés, il y a un entremêlement entre leurs branches pour ne former, à première vue, on croirait qu'il s'agit d'un seul arbre. C'est ça dans la langue arabe. Alors, lorsqu'on passe maintenant à ce couple qui est désigné dans le texte, les textes de la loi Qur'an et Sunna, par nikah ou zawaj, quelle est la définition que nos juristes ont déduit de cette lecture des textes? Et comme j'ai dit, vous ne pouvez comprendre les textes qu'en vous retournant vers la langue arabe, qui est le berceau. Parce que Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, le Coran en arabien, c'est un Coran en langue arabe. Et dans un autre verset, Dieu parle de arabien mubin, bilisan en arabien mubin, une langue arabe explicite. Ça veut dire que le Coran à 90% ou même à 99% est un Coran qui a été révélé dans une langue arabe explicite. On appelle ça muhkam. Et ce qu'on appelle le texte probant, ou l'aspect probant du texte, il est très minime dans le Coran. C'est un Coran uhkimat ayatuhu. Et c'est pour ça que lorsque vous regardez la classification des termes de la langue arabe utilisée dans le Coran, vous trouvez al-muhkam al-mutashabah. Le probant, c'est l'ambigu, le mutashabeh, qui s'appelle l'ambigu, elle marche comme c'est l'explicite. Et cet explicite, c'est lui qui prend toute la dimension dans le Saint-Coran. C'est très important d'avoir cette idée. Donc, lorsqu'on revient vers cette définition déduite de ces lectures coraniques et prophétiques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent que c'est un contrat qui va nouer entre deux entités, deux partenaires, qui va permettre à un homme et une femme de cohabiter dans un cadre légal, et permettre, et ce contrat, par cette cohabitation, va permettre la réalisation des aspirations humaines de l'homme et de la femme, d'une solidarité commune tout le long de leur vie commune, tout en fixant, c'est-à-dire ce contrat, il fixe les droits et les devoirs de chacun. C'est-à-dire, le contrat de mariage Az-Zawaj al-Islami est un contrat qui va lier deux intérêts, celui de l'homme et de la femme. Mais puisque ce contrat va être fait sur base de l'islam, Leurs intérêts ne doivent pas aller à l'encontre des principes de l'islam et des textes de l'islam. C'est pour ça que notre prophète sallam a dit Al-muslimuna 'inda shurutihim. Les musulmans peuvent s'imposer mutuellement des conditions. Illa shartan. Excepté lorsqu'il s'agit d'une condition, ahalla haraman ou harrama halalan. Excepté une condition qui va rendre licite un interdit ou interdire un licite. Donc, c'est un contrat civil, on va s'imposer des conditions, mais dans le cadre de l'islam, sinon on ne va plus parler de mariage islamique. À quoi ça sert de mettre l'intitulé islamique? Islamique veut dire texte de l'islam, Qur'an et Sunna. Nous ne sommes pas musulmans, ce sont les textes. Ce n'est pas une identité culturelle, c'est une identité religieuse de conviction. Al-islamu dinun. Din. Ce n'est pas une faqafa, ce n'est pas une culture. C'est un din, donc il s'agit d'une conviction. Cette conviction a une dimension temporelle et spirituelle. Dans sa dimension temporelle, c'est ce que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Mais nulle part, lorsqu'on parle de la dimension temporelle, on va faire abstraction de la dimension spirituelle. Toujours la dimension spirituelle est omniprésente, même dans l'aspect temporel, qu'il s'agisse de mariage, ou de vente, ou d'achat, ou de ce que vous voulez, qui a trait à la vie temporelle. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pourquoi l'islam tient-il, accorde-t-il tant d'importance à ce que ce couple se forme par le biais du mariage? Premièrement, sachez que Dieu subhanahu wa ta'ala a utilisé dans le Coran le terme zawaj, nikah et tous les dérivés qui sont en rapport avec cette question dans plus de 140 versets. La répétition coranique veut dire importance de la chose. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette habitude, lorsqu'il insistait, lorsqu'il répétait quelque chose, c'est pour dire que c'est grave, c'est important. Lorsqu'il répétait une information, c'est pour dire attention, à l'écoute. Ce n'est pas une répétition banale qu'Allah subhanahu wa ta'ala a traité à 140 versets que j'ai recensés les termes nikah, zawaj et leurs dérivés, pour parler toujours du couple humain. Ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Parce que le mariage est le moyen qui permet la formation de la première cellule qui est à la base de la société et de sa stabilité. Allah subhanahu wa ta'ala a même cité comme un bienfait qu'il a accordé à l'élite de l'élite parmi ces créatures qui sont les prophètes et les messagers. Alayhi salatu wa salam. Il a dit, nous avons envoyé avant toi des prophètes et nous leur avons assigné des épouses et des enfants. Et disent nos savants, si Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des prophètes alayhi salam en disant qu'il leur a accordé enfants et conjoints, c'est pour dire que c'est quelque chose de très important. Et Dieu l'a cité, fi maqam al-imtinan, on dit en arabe, c'est pour rappeler un bienfait qu'il avait cité subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez mettre comme référence la sourate le tonnerre, le verset 38 dans lequel vous trouvez cette information. Dieu subhanahu wa ta'ala, pour montrer l'importance du mariage, il a mentionné en rappelant aux croyants qu'il a créé les femmes, qu'il leur a créé des femmes issues d'eux-mêmes. Ça c'est la traduction française. Ici je vais un petit peu bifurquer sur ce que le frère avait suggéré tout à l'heure, frère Romero, concernant est-ce que la femme a été créée de l'homme, etc. Nous avons deux lectures. Mais ces lectures, chacune est fondée. Il n'y a pas, comme j'ai dit, lorsqu'on parle vraiment de lecture, moi j'aime pas trop le mot interprétation, honnêtement. Parce que ça me crispe, parce qu'on l'utilise beaucoup parfois à tort. La lecture, elle a été faite, c'est vrai, chez Tabari, nous trouvons une version israélite. Et Tabari, c'est un bon exégèse, mais quelquefois, il cherche dans les versions israélites pour expliquer certains événements qui sont cités dans les cinq Corans, se rapportant aux civilisations antérieures. Et donc, dans les versions israélites, il y a cette conception que Adam a.s. était endormi, Dieu a profité de son sommeil pour tirer une côte d'Adam et a créé Ève d'elle. Ça, c'est, on met en cause cette version. Mais nous avons un hadith qui ne parle pas uniquement du caractère. Moi, je ne suis pas ici pour dire celui-là a raison ou celui-là n'a pas raison, parce que je ne suis pas savant. Donc, je me mets pas dans cette situation parce qu'elle est dangereuse. Mais je vous dis ce qu'il y a comme lecture. Il y a celle-là. C'est-à-dire, clairement, Dieu subhanahu wa ta'ala a créé, parce qu'on fait une lecture littéraliste, on va dire, comme les Zahirites font, de Ibn Hazm, rahimahullah. Dieu a dit, « Khalaqa lakum min anfusikum azwajan min anfusikum » de vous-même, issu de vous-même. Mais l'imam al-Razi, rahimahullah, Et d'autres exégètes, ils disent non. Lorsque Dieu dit men anfusikum, c'est-à-dire de la même essence que vous. C'est-à-dire, vous êtes issus de terre et il y a une âme que Dieu a soufflée en vous. Et le Créateur qui a créé Adam par la parole kun fayakun, il n'avait pas à attendre subhanahu wa ta'ala que Adam somnole pour qu'il puisse créer Ève. Et bien sûr, il s'est fondé comme lecture aussi. Mais moi, je vais dépasser cette phase-là. Et de ne pas m'arrêter à dire que la femme, elle est tordue, l'homme, il est droit et il est meilleur qu'elle, donc elle n'a pas de valeur. Ça, c'est un débat de polichinelle que les premières générations n'avaient pas. C'est nous, avec les siècles de la décadence, où nous avons vu une lecture qui n'a rien à voir avec les textes, ça c'est vrai, et qui a mis en cause des choses qui étaient, chez les premiers, il n'était même pas question d'en discuter. On ne trouve pas ces débats dans les premières générations, ce sont des débats qui sont survenus plus tard. Première génération, les textes sont là, Dieu subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et la femme, et tous les deux s'associent dans leur aspect humain, et dans leur responsabilité au niveau du Créateur, face à leurs bonnes actions, mauvaises actions, et puis il y a une responsabilité commune, le contrat, c'est un contrat qui régit un partenariat, puisque c'est un contrat civil, après on parlera de ce contrat, comment est-ce qu'il est conçu. Donc, ça ne nous pose pas problème au niveau de savoir si c'est de Adam, ou est-ce qu'elle a été créée de la même essence. Moi je pense que Dieu subhanahu wa ta'ala a créé un couple, c'est ça qui nous interpelle et qui doit nous interpeller avant tout, et ce couple il va se nouer par un contrat qui va définir les responsabilités de chacun et partager les fonctions de chacun. Et lorsque je parle de partage, à ce moment-là, nous allons faire référence à des textes. Et non pas parce que c'est une société patriarcale et une société matriarcale et toute l'histoire qu'on entend actuellement, l'égalité, nous sommes pour une complémentarité tout en étant différents, pas la ligne. Sinon, on va mettre l'immuabilité, comme on entend sans arrêt des textes, pourquoi est-ce que vous parlez de différence entre l'héritage, pourquoi est-ce que vous parlez de différence entre dans les témoignages. Alors là, vraiment, ça devient très dangereux. C'est très dangereux, nous n'aurons plus de référents ni de repères, et moi je suis tout à fait peut-être classique, mais je crois que c'est la règle. Si on veut, et si l'islam s'est maintenu, c'est parce qu'avec la force de ces textes et de leur, si vous voulez, ils sont explicites, qui ne supposent pas qu'on commence à vouloir, comme j'ai dit, faire une lecture adaptée. C'est à nous de nous adapter et non pas le texte qui doit s'adapter. Sinon, on va tomber dans ce slogan qu'on a entendu, qui existe avec, par exemple, cette tendance qui s'appelle la gauche islamique. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Hein, on a une tendance qui s'appelle Yassar al-Islam, la gauche islamique, et qui disent, sur les questions spirituelles, Allahu Akbar, sur les questions sociales et économiques, c'est Sha'bu Akbar, le peuple est grand. Alors, qu'est-ce qui reste là de divin dans le texte à ce moment-là? Donc, c'est pour ça que je dis, soyez attentifs, c'est une question d'ordre dogmatique et non pas uniquement d'ordre sociologique ou autre. Donc, le mariage est très important. Allah subhanahu wa ta'ala donc a montré son importance puisqu'il a parlé de sa stabilité sur base de ce qu'on appelle ce que Dieu a cité dans le Coran, al-mawadda wal-rahma wal-sakan. Al-mawadda, c'est de la tendresse, al-rahma, c'est de la compassion, al-sakan, c'est la quiétude et la paix qui doit régner dans le couple. Sinon, il n'y a pas de stabilité. Et Dieu n'a pas à parler de hub. D'amour, il a parlé de tendresse parce que c'est plus profond et c'est plus durable que l'amour. L'amour, c'est une passion, la tendresse, c'est un sentiment très profond qui dure avec le temps. Et c'est pas parce que, et n'oubliez pas, j'ai dit que le Coran était en langue arabe. Le Seigneur connaît ce que veut dire hub, puisqu'il a parlé de matahabbu nafiya dans beaucoup d'autres endroits, mais lorsqu'il a parlé du couple, il a parlé de mawadda et de rahma. Et lorsqu'il a parlé de l'homme, de sa relation avec la femme, il a dit les teskunu ilayya. Vous allez trouver de la paix, de la sécurité, de la quiétude auprès d'elle. Dieu a demandé et a insisté pour que les musulmans se marient parce que le mariage, d'après un hadith rapporté par Daylami dans le Ferdaus, est un moyen qui apporte de l'abondance dans la subsistance. Azawajou, voici la tonne, c'est un moyen li mubarakati rabbi subhanahu wa ta'ala fil rizq. Al-Zawaj est un moyen qui bénit votre subsistance. Le mariage permet d'avoir chez soi, dans le couple, et ça c'est un intérêt bien sûr toujours pour l'homme et la femme, de sentir l'odeur du paradis. Dans un hadith de Rasulallah sallam, les enfants, al-awladu min rih al-jannati. Les enfants, lorsque vous sentez vos enfants avec toute cette tendresse, si vous sentez quelque chose qui émane du paradis. Dans un hadith de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le mariage Donc pour ce qui est de l'Isra, j'ai dit, c'est rapporté par Daylami dans son ouvrage intitulé Firdaus. Pour ce qui est des enfants, j'ai dit, c'est un hadith rapporté par Tabarani dans l'Awsat. Le mariage permet à l'homme et à la femme de voir leur degré augmenter au sein du paradis, de se voir transcender dans les degrés du paradis. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on fait venir l'individu et on lui fait savoir ce qu'il a commis. Et puis après, Dieu lui dit, voilà ce qui t'a été accordé. L'individu va être surpris, dit, Seigneur, par quel miracle j'ai pu obtenir cela? Dieu lui dit, subhanahu wa ta'ala, grâce aux invocations de tes enfants en ta faveur. Fada'watul awlad, l'invocation des enfants, permet aux croyants et à la croyante de se voir élevés dans les degrés du paradis. Ça, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Majah. Le fait de voquer aux occupations, si vous voulez, et aux charges familiaux, que ce soit de la part de l'homme ou de la femme, est un moyen qui permet à l'individu, mâle ou femelle, d'être en compagnie des prophètes alayhi salam au paradis. Hadith rapporté par Ibn Asakir. Le mariage permet aux croyants et croyantes d'être préservés de la tentation de Shaitan. Et moi je parle de religion ici. Et ce que je dis fait partie de notre conviction religieuse. Le mariage, pour l'homme maintenant, c'est la meilleure chose qu'il peut obtenir dans cette vie d'ici-bas. Alors surtout si Dieu subhanahu wa ta'ala lui accorde une femme pieuse. C'est l'explication qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été transmise par les commentateurs de qawluhu ta'ala dans la sourate al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Ibn Majah a dit hasanat ad-dunya, c'est la femme pieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'homme regarde avec affection sa femme et lorsque la femme regarde avec affection et tendresse son mari, Allah subhanahu wa ta'ala les regarde avec un œil de miséricorde et leurs péchés sont dissous d'entre leurs doigts. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour insister sur la notion du mariage, pour montrer sa valeur. C'est pour ça qu'il y a eu plus que 140 versets qui traitent de ce sujet. Le mariage permet à l'homme et permet à la femme aussi, comme a dit la Sallam, celui qui se marie, c'est comme s'il a fait un parcours, il a gagné la moitié de sa religion. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'il n'a plus de préoccupations qui l'empêchent d'accéder à une pratique meilleure dans sa spiritualité. Une fois qu'on est marié, on a mis à côté toute une partie qui préoccupe l'être humain, qui sont les attentes de l'instinct. Et l'islam est une religion qui reconnaît le droit aux instincts. Et parmi les instincts que l'islam reconnaît, c'est l'instinct sexuel. Et cet instinct, lorsqu'on le satisfait dans le halal, le prophète en a fait, alayhi wa sallam, une source de bonnes actions et de profit. Il a dit, « Wa fi buv'i ahadikum sadaqa » Et dans le coït de l'un d'entre vous, il y a une aumône. Les compagnons ont surpris. Ils ont dit, « Ya Rasulallah, l'un d'entre nous, il accède à son désir, il en est récompensé. » Il a dit, « Voyez-vous s'il le fait dans le haram. Est-ce qu'il en sera sanctionné ?» Ils ont dit, « Oui. » Il a dit, « De même, lorsqu'il le fait, il est satisfait dans un cadre licite. » Donc l'islam est une religion qui traite de ces sujets-là. Et de tous les sujets qui interpellent le couple, je n'ai pas le temps pour parler de ces litiges qui sont proposés aux musulmans, qui sont proposés à ceux qui sont des médiateurs dans la communauté. Mais en vérité, tous ces problèmes sont cités. Et on trouve leur solution dans les textes de la loi, mais on ne lit pas les textes convenablement. Ou on les lit d'une manière unilatérale, mais on ne les lit pas convenablement. Le médiateur musulman, il ne va pas vous inventer une réponse. Il va se référer à des textes coraniques ou prophétiques, ou à des avis d'érudits qui sont plus habilités que moi et lui pour vous donner une réponse et qui ont donné des réponses. Ici, j'aimerais bien ouvrir deux parenthèses rapidement, parce que sinon, on m'a dit jusqu'à 8h15, c'est déjà fini, presque. Et ça, c'est de l'injustice, parce que généralement, j'ai le droit à 1h, c'est écrit hein, dans le programme. Et donc, lorsque vous regardez cette question, vous trouvez que toutes les questions qui sont, ou les problèmes qui sont posés à l'homme et à la femme, ont été solutionnés. Et comme j'ai dit, mais la lecture, elle est unilatérale, parce qu'on ne veut pas regarder que là où on a soi-disant son intérêt. Et dans une lecture, lorsqu'on est dans un conflit de couple, Celui qui se dit musulman, c'est pour ça que j'ai distinction dogmatique avant tout et de conviction, il faut qu'il se soumette au texte, même s'il est en tort. Et il faut laisser un petit peu son égoïsme et sa fierté et dire, comme disaient les croyants, « sami'na wa ata'na ». Et nous, on a ce problème-là. On n'a pas cette notion de « sami'na wa ata'na ». Et donc, en vérité, au lieu de dire « il faut une autre lecture », moi je dirais plutôt ceci. Il faudrait une lecture honnête des textes et les mettre en application dans leur dimension réelle. Et que nous devons savoir que lorsqu'on doit lire un texte de la loi sur une question X, la lecture ne se fait pas à travers un seul verset ou un seul hadith. Les réponses apportées par nos juristes sont des réponses qui sont apportées à partir d'une lecture globale de tous les textes qui traitent d'un problème bien précis. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va directement vers un hadith. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ceci. Qala Allah ta'ala ceci. Mais on ne dit pas l'ensemble des versets qui traitent de la problématique du couple. Voilà ce qui en ressort. C'est ça ce qu'ils ont fait les juristes. Mais ce que nous ne faisons pas, nous. Donc, même au niveau de notre manière d'appréhender les positions des juristes, nous sommes malhonnêtes avec eux. On fait une lecture sélective des livres du droit. Et on ne regarde pas comment les juristes ont proposé les solutions. Et vous allez voir que ce sont des solutions pour de bon, justes. Et elles ne sont pas morcelées. Pas du tout. Elles sont cohérentes dans toutes les réponses qu'ils ont apportées. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, n'oubliez pas que le droit, al-fiqh, comme on dit nos savants, c'est al-hayat. Le droit, c'est la vie. C'est-à-dire que les réponses qui ont été apportées par nos juristes sur des questions nouvelles qui ont été soulevées à leur époque, ils ont soit mis en application des textes, parce qu'ils sont explicites qu'ils ont rappelé leur application, ou soit ils ont dû déduire de nouvelles règles via l'esprit des textes pour des questions nouvelles. Et c'est pour ça que ces questions peuvent être, leurs réponses peuvent être changeantes. Et c'est ce que nous constatons avec les mêmes chefs, rahimahullah, sur les mêmes questions à Bagdad, lorsqu'il a vécu, il vivait à Bagdad, il avait donné des réponses. Quand il est allé résider en Égypte, sur les mêmes questions, il a donné d'autres réponses. Et si les connaisseurs, ceux qui lisent les livres de droit, ils vous disent « هذا في مذهبه القديم وهذا في مذهبه الجديد ». Ça c'est la position de l'imam Shafi'i, son avis antérieur, et ça c'est son avis nouveau en Égypte. C'est normal. Mais est-ce qu'il était en contradiction? Pas du tout. Il n'est pas en contradiction. Les questions sur lesquelles il y a des questions immuables, il ne va pas lui-même ni les interpréter, ni les abroger. Il n'a pas le droit, il n'a pas la qualité. L'abrogation est arrêtée depuis la mort de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est une question d'ordre divine. Mais les questions où il était habilité comme érudit à apporter des réponses, ben, il les change par rapport aux circonstances. Et c'est ce qu'a dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah. Al fatwa tataghayyaru bi taghayyur az-zaman wal makan wal ahwal. La fatwa, c'est une réponse X donnée pour un problème X, elle change par rapport aux lieux et circonstances et aux individus. Mais ça, sont les réponses où il n'y a pas de réponse divine. Mais ce sont des réponses qui sont le fruit de l'effort de réflexion d'un érudit. Ça, c'est une parenthèse. Je passe maintenant aux fiançailles, qui s'appelle en arabe al-khitbatu. Ne confondez pas al-khitba ou al-khutba. Al-khitba, c'est les fiançailles, al-khutba, c'est le discours de l'imam, ou le prêche. Al-khitbatu, qu'on traduit par fiançailles, si vous voulez, je vais aller vite, du point de vue juridique. Elle a été instituée par le législateur pour permettre aux deux futurs partenaires de se connaître mieux. C'est-à-dire, le khutba n'est pas faite pour vivre une période de sentimentalité excessive. On entend pendant le khutba, nhibbuk wathibni, nhibbuk wathibni, nhibbuk wathibni. Sbah, ashiya, matin, soir, il n'y a que je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, dis-le-moi encore, dis-le-moi encore. Et on ne parle pas des questions réelles. Alors lorsqu'on se marie, on dit, oh, quelle horreur, c'est quoi ce type que je me suis marié avec? Et vice-versa. Le législateur, ici je parle, c'est-à-dire de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a institué le khutbah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, en sa qualité de législateur à qui Dieu a donné ce droit. Puisque la sunna est une source de la loi. Le prophète a dit, « Ala inni utitul qur'ana wa islahu ma'ahu » Dieu m'a révélé le Coran et quelque chose d'autre qui lui est similaire. C'est la sunna. « Wa ma yantiqu anil hawa » Il ne parle pas de son propre chef. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « Inhuwa illa wahyun » Yuha, la sunna est une révélation. Donc, Sayyidina Muhammad a institué son salam al-khitba pour qu'il se fasse ample connaissance sur des questions fondamentales. Ces questions, le législateur, il les a abordées. Mais comme j'ai dit, nous ne lisons le Coran et la sunna que par les yeux de notre cœur ou par de notre intérêt.
Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, concernant la femme, il a dit, la femme, on désire l'épouser pour sa beauté, pour sa richesse, pour sa filiation, et pour sa religion. Choisis celle qui a la religion, sinon tes mains seront vides. Lorsque religion, le mot religion est un terme général dans notre religion. Nous, on a pris le mot religion, hijab. Le hijab est obligatoire, vous n'allez pas me dire que je mets en cause le hijab. Hein. Il est obligatoire. Mais, ce n'est pas que le hijab dont il est question. Ad-dinu, c'est 50 000 choses. Le prophète a dit, al-iman ou bid'an wa sab'una shu'aba. La foi, c'est 70 et quelques branches. A'laha, le plus haut, le summum de cette foi, c'est la ilaha illallah. Qawlu la ilaha illallah. Et le plus bas degré, la branche la plus basse de cette foi, c'est le fait de dégager du chemin des gens tout ce qui peut être nuisible. Nous, on ne s'en renseigne pas sur le caractère de la sœur, ni sur ses humeurs, ni sur ses qualités, ceci, ni ceci, ni ceci. Elle est mutadayina, elle est pratiquante, elle met le hijab, masha'Allah, c'est une sœur engagée. Puis après, dès qu'il y a un malentendu, la sœur lui sort des gros mots comme ça. Il ne savait pas qu'était quelqu'un de nerveux, lorsqu'elle s'énerve, elle dit des grossièretés. Le prophète, lorsqu'il parle aux hommes, aux parents et à la fille, il dit « Iza ja'akum man tarzawna dinahu wa amanatahu wa khuluqahu » Sa religion, sa loyauté et khuluqahu, son caractère moral. Est-ce qu'il y a une sœur qui se renseigne sur le caractère? Il est beau, il a une longue barbe, il est pratiquant, il etc. Oui, la barbe fait partie de l'islam. Oui, tout ça c'est vrai. Mais lorsque Ummu Qais qui a demandé son divorce à Rasulallah sallam de son mari, Thabit, qui était un homme droit, et qui était un homme de qualité, un compagnon de Rasulallah, mais elle a dit, je ne l'aime plus. Et Rasulallah, je ne l'aime plus. Lorsque je le vois venir de loin, il est le plus il est le plus petit trapu du groupe, mon cœur ne tient plus à cet homme. Je n'ai rien à dire sur sa religiosité, elle a dit. Le prophète a dit, tu lui rends son verger qui était la dot, et il te libère. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est une question. Mais lorsqu'elle a eu deux prétendants, Muawiya et Abu Jahl, le prophète lui a dit, Muawiya, il est sourlouk, pas dessous. Il ne va pas épouser une femme, il lui dit, va travailler, moi, va travailler, moi je fais la grâce matinée ou je sable devant la TV. Ça existe dans la réalité de nos couples musulmans, hein, ce truc-là. Hein. Elle travaille et lui zappe à longueur de journée. Ou soit, Abu Jahl, il lui a dit, Abu Jahl, toujours son bâton est sur l'épaule. C'est-à-dire, c'est un violon avec les femmes. Nous sommes en face ici de deux compagnons de Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas ça, hein. Muawiya, radhiallahu anhu, était écrivain de la révélation. Et le prophète a dit, pas Muawiya, pas de sous. Comment est-ce qu'il va assumer sa responsabilité de t'apporter la sécurité économique si tu tombes enceinte? Et l'autre, il est violent. Est-ce qu'il a mis en cause leur piété? Pas du tout. Il a mis en cause leur islam? Pas du tout. Mais il a parlé de caractère. Épouse Oussama. Oussama, il n'est pas beau gosse. Il était noir foncé. Brun foncé. Elle a dit des réticences. Il ne plaît pas. Le prophète, il est venu et lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, tazawaji Oussama. Épouse Oussama. Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne parle pas comme ça de son prophète. C'est un prophète de Dieu. Il y a des choses qu'il voit que nous ne voyons pas. Alors, lorsqu'il a insisté, elle s'est exécutée. Elles sont vantées auprès des autres femmes. Parce qu'il y a autre chose. Al-Khatba permet de connaître cet aspect de la personnalité du partenaire. Nous, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On le passe avec des lettres d'amour. Matin et soir, jusqu'à ce qu'un savant musulman a dit, ce qui est malheureux dans les couples musulmans de nos jours, c'est qu'ils vivent la vie du mariage avant le mariage, et après le mariage, ils vivent la vie des fiancés. Et c'est vrai. Alors ce qui me pousse maintenant à vous dire juridiquement, qu'est-ce que les fiançailles? Les fiançailles, dans tous les livres du droit musulman, c'est une promesse de mariage. Ce n'est pas un mariage. Dans tous les livres du droit, il n'y a pas ici de dire, il y en a un qui a donné notre explication, interprétation. C'est une promesse de mariage que chacun des deux partenaires peut défaire quand il veut. S'il n'a pas trouvé les qualités requises ou le projet commun. Falaysat zawajan, elle n'est pas un mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du point de vue légal, pendant les fiançailles, le futur époux et la future épouse sont deux étrangers, l'un à l'autre. Donc pas de cohabitation, Pas de tête à tête. On met le feu près du bois et on dit, on ne sait pas. Pas de tête à tête. Je vous assure qu'il n'y a pas un juriste qui sait la loi de Dieu qui vous dira le contraire. Ce que vous avez entendu, ce sont des fatwas pour dire, il vaut mieux qu'au lieu de calibrer ses désirs sur une étrangère, il le calibre sur sa fiancée, comme ça il peut rêver d'elle, et même s'il sort avec elle, il l'embrasse, c'est mieux. Oui, mais s'il le sort avec elle, il l'embrasse, puis elle tombe enceinte. Lui, il dit, salam alaikum, devant toutes les lois humaines et divines, elle est l'enfant, et il ne peut ne pas le reconnaître. Et la fille, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est ce que nous avions vu, c'est ce que nous voyons sans arrêt autour de nous, comme problèmes qui nous sont proposés à solutionner. Fiqhan, dans le droit musulman, les fiançailles, c'est une promesse de mariage. Donc quelqu'un qui dit, Bismillah, marim, alhamdulillah, rabbal alamin, il fait réciter la fatiha, enti marti, enti zaoujti, naam. Quel zaoujtik? Et qui me garantit mes droits, moi, après? Qui me garantit mes droits? Qui me protège? Qui? C'est-à-dire, à ce rythme-là, moi, je vais avoir quelqu'un demain qui va débarquer chez moi. Il dit, je suis musulman pratiquant, le prophète a dit, tu dois me donner ta fille. Si vous ne donnez pas votre fille, donc il y aura beaucoup de désordre sur terre. On fait la lecture du hadith là comme ça directement, sans que je me renseigne sur son caractère ni rien du tout. Et puis dit, après le fait, dit, c'est ma femme, il la prend, il sort avec. Je dis, naam, hada huwa an-nas. Qu'est-ce que c'est que cette lecture bidon qu'on fait des textes de la loi? On ne peut pas faire ça. Donc je répète, c'est une promesse de mariage. Donc, les sorties tête à tête, etc., sont interdites. Pourquoi? Parce que les textes qui interdisent à un homme étranger d'être avec une femme étrangère sont explicites et sont généraux d'application. Umum an-nas. قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون شاب بامرأة أو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. Chaque fois qu'il y a un tête-à-tête entre un homme et une femme, le troisième c'est le diable, il est avec eux. Au début, عنده الحشمة متربي, il baisse la tête, puis commence à regarder, oh Allah, il a de beaux yeux. Oui, même la bouche, mashallah. Et puis après, elle va préparer un café, il regarde pas, et puis après, il lève la tête, il regarde la taille, puis, soyons sérieux. Subhanallah, notre religion, parmi ses caractéristiques, sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est une religion réaliste. On appelle ça al-waqi'iyyatu. C'est une des caractéristiques de la loi musulmane, et ça, ça fait partie du réalisme de l'islam. Et vous savez très bien, mes chers frères et sœurs, que la réaction de l'homme par rapport à la femme, c'est pas de la même manière. L'homme, il tourne directement, dès qu'il voit une voix, il entend une voix, il entend le son des talons. Ah, ils sont une odeur, il est au garde à vous dès qu'ils sont une odeur, comme le parfum, le poison et tout ça. Tous les jeunes, vous les voyez au garde à vous. Mais les textes sont là, on ne les lit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois, si une femme sort pour que les hommes retrouvent de son odeur, elle est considérée adultérie jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Est-ce que le prophète a dit ça pour rigoler ou quoi? Bien, parce que, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a informé comment les hommes réagissent. Les hommes réagissent au nez. Ils réagissent à lui. Ils réagissent au regard, les hommes. Ils sont plus excités que les femmes, si on va parler des choses clairement. Alors, d'où les questions, pas de tête à tête. Le prophète a dit, « Illa mahram », sauf la présence d'un mahram. Mais pourquoi? Mais pour vous. Pour que monsieur ne soit pas tenté, alors que c'est encore les fiancés, de croire que vous êtes son objet. Non, vous n'êtes pas son objet. Le proverbe populaire, il dit, « Fatha maftouha, ou kul wahda ala ruha ». Le fatha, 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 ouvrir. Elle est ouverte pour dire, c'est-à-dire, on peut à tout moment dire, assalamu alaikum. Et chacun est pour soi. C'est pas un iqd qui lie. Comme j'ai dit tout à l'heure, azawaj wa iqdon. Là, nous ne sommes pas dans la démarche du iqd. J'insiste beaucoup sur cette notion-là. Al fatha tolaysat iqdan. Lorsqu'il y a iqdon, avec tous ces éléments constitutifs, on parle à ce moment-là. Mais tant qu'il s'agit d'une demande, et cette demande, elle est voulue par le législateur pour que vous essayiez de découvrir et de discuter des choses importantes et non pas de la garde-robe et du papier peint que vous allez faire et tout ça. Ça, c'est secondaire, c'est futile. C'est pour ça que nous voyons des gens, leur mariage, on m'a informé, il y a un mariage qui devrait faire partie d'un divorce, qui devrait être mis dans le livre des records. 4 heures après le contrat, ils ont divorcé. Record. 4 heures. Première, accrochage, beslama, beslama. Et le divorce a eu lieu. Pour des futilités. Pourquoi est-ce qu'ils ont divorcé? Parce qu'ils n'ont pas parlé des questions essentielles pendant les fiançailles. On n'a pas abordé les questions essentielles. Il faut parler des questions essentielles. C'est très important pour la durabilité de ce lien. Voilà donc, pour ce qui est des fiançailles, le prophète a dit, il faut vraiment qu'il y ait un regard analysateur, il faut qu'il y ait un regard analysateur au niveau du fond de la personne, parce que ce regard analysateur, un nazar en arabe veut dire deux choses. Nazarun bil ayni wa nazarun bil fikri. C'est pour ça qu'on appelle les gens de l'opinion ahl al-nazar. Lorsque Dieu dit afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, il vous demande de regarder parce que lui la vue est un moyen qui permet, comme vous savez, le sens est un moyen qui véhicule l'information pour la raison, mais en même temps aussi an-nazaru c'est un regard rationnel de réflexion. Donc vous devez regarder bien votre futur conjoint, pas uniquement physiquement, mais aussi par l'œil de votre raison. Et ceci, on l'oublie beaucoup. Voilà, donc ça c'est mon introduction concernant les fiançailles. Il me reste 10 minutes maximum, comme ça j'aurai pris mon heure. J'ai intitulé, moi, cette petite intervention, la deuxième partie, le mariage entre l'utopie et le réalisme. Je vais vous choquer par un mot, c'est que beaucoup de nos frères épousent un livre. Et beaucoup de nos sœurs épousent un livre. C'est-à-dire, elles sont allées à la librairie, ils ont acheté un livre dans lequel il y a les qualités d'un bon musulman, d'un bon mari. Et la sœur a acheté un livre aussi dans lequel on lui dit « Zawjun Salah, il est ceci, ceci, ceci ». Et puis lorsqu'on se marie après avoir parlé de « Hob », c'est fini, on se trouve devant les problèmes de la vie de tous les jours. Je rentre fatigué, tu me dis un mot, je t'écorche. Je te dis un mot, tu es fatigué par le travail ou par les occupations, hop, tu montes, la sauce monte. Je dis, c'est quoi cette mara que j'ai épousée? Sahabiyat, les compagnons n'étaient pas comme ça. Et elle a dit, mais Sayyidina Omar n'était pas comme ça. Mais il ne s'agit pas de Sayyidina Omar. Vous savez que Sayyidina Omar battait, hein? Il était un homme juste, un homme aimé par son épouse, mais en même temps, c'était un homme comme tout le monde, avec ses qualités et ses défauts. Et c'est ça le problème, c'est lorsqu'on se marie, on fait abstraction de ses qualités et de ses défauts, on veut faire valoir que ses qualités, et on ne veut pas reconnaître ses défauts, et on veut voir chez l'autre que ses qualités, on ne veut pas accepter ses défauts. C'est ça le problème, et je vous assure que c'est à l'origine de tous les conflits conjugaux qu'on a. C'est que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas lu le Coran convenablement et les hadiths du prophète sallam. Le Coran a parlé des conflits. Les hadiths du prophète parlent du conflit sallam. C'est-à-dire, donc, d'avance, le Coran nous prépare sur le plan psychologique à savoir et à intégrer dans notre psychologie de futures épouses et époux qu'il y aura des problèmes de couple. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait des problèmes parce que nous sommes devant deux individus avec des caractères différents, avec des aspirations différentes, une éducation familiale différente, des origines socio-économiques parfois différentes, intellectuellement différentes, mais ils ont une ambition commune, c'est de fonder un couple musulman. C'est-à-dire, il y a un tronc commun, c'est l'islam. Ce tronc commun doit être notre objectif. Et qu'est-ce que dit cet objectif? Il dit « mawadda wa rahma ». Tendresse et compassion. Et la compassion, elle intervient lorsqu'il y a des erreurs. On est plein de compassion et de miséricorde envers celui qui fait des erreurs. Et la quiétude, pour dire à la femme, malgré tout, tu dois offrir cette quiétude. Parce que, mes sœurs, sachez que les hommes sont des grands enfants. C'est la vérité, hein? Nous sommes mis au monde par une femme. Et nous avons besoin d'une femme pour nous cajoler. On a besoin de ça. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas besoin de ça. Hein? Mais j'ai dit, vous êtes tellement affectueuse que nous, on est moins affectueux que vous. C'est la vérité. Et donc, on a besoin de votre affection. Et si l'homme ne trouve pas cette affection-là, une autre qui lui dit, elle lui miroite la possibilité de lui offrir, il va courir vers elle. Ça peut être soit sa mère, il va revenir vers sa mère. Beaucoup de sœurs se plaignent que l'homme, leur mari, il est plutôt encore le fils de sa mère plus que leur mari. Ou d'autres disent, ben, il est allé ailleurs. Et donc, trois éléments, mawadda, wa rahma et sakan. Et puis, Dieu parle dans nombreux versets, subhanahu wa ta'ala, des litiges dans les couples. Rébellion de l'homme, rébellion de la femme. Même l'homme, il peut se rebeller. Hein? Najiz, rébellion, c'est-à-dire injustifié. Parce que dès qu'on parle de nos choses, on parle de rébellion non justifiée. Simplement pour mettre un peu la zizanie dans le couple comme ça. Ça peut être de l'homme aussi, Dieu en parle. Mais toujours Dieu parle de quoi? De solah, de réconciliation. Il parle de mawa'ida, d'exhortation. Il parle de pardonner. Il parle de toujours chercher la manière la meilleure dans la relation. Et ceci, on l'oublie. Je vous donne un exemple. Ibn Abd al-Barr a rapporté avec d'autres, d'après Aqab, je conclue. Je n'ai pas terminé mon sujet, hein, mais bon, je m'excuse auprès de vous, c'est un sujet qui est important, peut-être. Donc, c'est un compagnon qui s'appelait Aqaf ibn Wada'a. Qala, ya Aqaf, est-ce que tu es marié? Il a dit non. Tu n'as pas de femme? Il a dit non. Et lui a dit, est-ce que tu es bien portant et tu as les moyens? Il a dit oui. Alhamdulillah. Le prophète lui a dit, donc, si tu ne te maries pas alors que tu es bien portant et tu as les moyens, fa'anta min ikhwan ash-shayatin. Tu es donc parmi les frères du chef des satans. Si tu es fait partie des moines, des chrétiens, alors rejoins-les. Et si tu fais partie des nôtres, alors fais comme nous. Parmi les plus dangereux ou les plus méprisés d'entre vous, ce sont les vos célibataires. C'est rapporté par Ahmad ibn Abi Shayba et autres. Donc que veut dire là? Pour dire que la femme, elle est très importante pour l'homme dans sa vie de couple. Et donc, lorsqu'on parle de ce lien-là, l'islam va en parler dans une conception où ils sont partenaires, et ils sont associés pour cheminer ensemble vers une finalité commune. Cette finalité commune, on l'éclipse beaucoup. Et on reste au niveau des attentes individuelles. Pourquoi est-ce que j'ai dit ce mot finalité commune? Puisque je suis là, et même l'intitulé du colloque, c'est Al-Usra al-Muslima, la famille musulmane. Donc on parle de zawaj islami, donc de mariage musulman. Donc je suis obligé de faire référence et de vous rappeler que le but, la finalité de ce mariage de la famille, c'est l'islam. Et l'islam c'est quoi? Mais c'est Dieu qui est notre finalité commune. Allahu rayatuna. C'est ça ou non? Et la finalité des finalités pour les musulmans, hommes et femmes, c'est quoi? Mais c'est le paradis. Là, je parle en termes de religion pure, là. C'est le Jannah. Et cette Jannah, comment est-ce qu'on peut y accéder si on va mettre devant le parcours qui nous permet d'y cheminer des futilités de la vie de tous les jours, alors qu'elles sont résolvables et qu'il ne peut pas être le moyen qui détruit ce cheminement en commun? Je vais conclure avec ce mot. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler ici, je répète et j'insiste, de zawaj bayn al-muslimin, mariage entre musulmans. C'est-à-dire, nous parlons d'islam. Et l'islam est un système de vie dans lequel nous avons des prescriptions dans tous les domaines de la vie, y compris le mariage. Et le but de toute cette adoration, c'est d'atteindre la satisfaction de Dieu, et c'est ce que Dieu a voulu dire dans sa parole lorsqu'il a dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai certes créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wallahu a'lam. Je vous remercie pour votre écoute. Si j'ai commis des erreurs, c'est de moi-même, et si j'ai pu vous transmettre ce que Dieu subhanahu wa ta'ala m'a légué, c'est par sa miséricorde. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
sahbihi. لشركة فرغب للنشر والتوزيع هاتف 0033614 801 134